RRB pour être au cœur de l'actualité.
Et voici à présent le magazine des sports. Et avant de retrouver Jean-François Baudet, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
La page sport de ce magazine du lundi que l'on ouvre avec le football, c'était la reprise ce week-end de la Ligue 1, Léo Fichou.
Et c'est le champion en titre, le Paris Saint-Germain, qui a ouvert le bal avec un festival offensif. Les Parisiens se sont imposés 4 buts à 1 sur la pelouse du Havre. Plus de buts aussi pour l'OM, victoire 5 à 1 contre Brest. Les recrues marseillaises ont brillé, un doublé de Greenwood et un but sur pénalty de Wailly. Ce matin, Rennes a écrasé Lyon 3 buts à 0. Victoire également de Lens contre Angers, d'Auxerre face à Nice, de Monaco sur Saint-Etienne et de Lille à Reims. Toulouse-Nantes et Montpellier-Strasbourg se sont soldés par des matchs nuls.
Et il n'y a pas qu'en France qu'on jouait, c'était aussi la reprise dans d'autres championnats européens.
En Espagne, en Italie et en Angleterre, oui, mais pas encore en Allemagne. La Bundesliga démarra que la semaine prochaine. Et nous, on commence notre tour d'Europe en Espagne avec déjà une surprise. Le match nul, un partout ce matin du Real Madrid sur la pelouse de Mallorca. Le Barça s'est imposé 2 buts à 1 à Valence. L'Atlético de Madrid jouera demain face à Villarreal. En Angleterre, Brighton prend les commandes de la Première Ligue grâce à victoire 3-0 contre Everton. Derrière, Arsenal, Liverpool et Manchester City, les favoris, assurent. Les trois équipes ont gagné 2-0 contre Wolverhampton, Ipswich et Chelsea. Le dernier match de la première journée se jouera demain matin à 6h, heure de Nouméa. Un choc entre Leicester et Tottenham. Et puis on termine ce Tour d'Europe en Italie. On a eu le droit à 6 matchs nuls ce week-end. Deux partout, notamment entre le Genoa et l'Inter. Deux partout aussi entre Milan et Torino. Ou encore 0-0 entre la Roma et Cagliari. La nuit prochaine, la Juve reçoit Com et l'Atalanta Bergame se déplace sur la pelouse de Lecce.
On passe au rugby avec ce week-end dans la région la deuxième journée du Rugby Championship.
La Nouvelle-Zélande a pris sa revanche sur l'Argentine. Une large victoire 42 à 10 qui s'est jouée en première mi-temps puisque les All Blacks menaient déjà 35 à 3 à la pause. Pour rappel, les Argentins avaient remporté le premier match 38 à 30 la semaine dernière. Dans l'autre rencontre, l'Afrique du Sud s'est une nouvelle fois imposée sur l'Australie. Victoire 30 à 12. Au classement, les Springboks sont en tête devant la Nouvelle-Zélande. L'Argentine est 3e, l'Australie 4e.
On va passer maintenant à l'actualité du cyclisme et d'abord la dernière étape du Tour de France féminin.
Et ça s'est joué à 4 petites secondes dans les pentes de l'Alpe d'Huez. Lors de la dernière étape, cette nuit, on a eu le droit à un duel d'anthologie. Et au final, c'est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui remporte son premier Tour de France. On l'écoute à l'arrivée.
Ouais, c'est fou, pour être honnête. Cette étape était très compliquée. J'ai eu des moments très difficiles sur le vélo. Je me suis senti capable de me dépasser. Moi, dans l'Alpe d'Huez, j'ai essayé de vraiment tout donner, faire tout ce que je pouvais faire sur les 5 derniers kilomètres. Je ne sentais plus mes jambes, juste appuyer le plus fort possible. Et pour être honnête, je pensais que j'avais presque perdu. J'avais plus de force. Et dans la radio, mon directeur sportif m'a encouragé, m'a donné tellement d'indications. C'était tellement dur, cette ascension. Et à la fin, à la ligne d'arrivée, on m'a dit « Tu as gagné le Tour de France ». J'ai dit « Mais c'est pas possible ».
Katarzyna Niewiadoma devance donc de seulement 4 secondes la grande favorite d'Amy Vollering, la Hollandaise qui avait lourdement chuté lors de la 5e étape. Au classement général, on retrouve 3 Françaises dans le top 10. Evita Muzik termine 4e, Cédrine Kerbol 6e et Juliette Labousse 9e.
Le Tour de France féminin s'est donc terminé. En revanche, coup d'envoi du Tour d'Espagne masculin ce week-end.
Et le départ a été donné du Portugal à Lisbonne avec un contre-la-montre de 12 km. Après les 2 premières étapes sur les routes portugaises, le maillot rouge de leader est sur les épaules de Wout Van Aert. Le Belge devance l'Américain Brandon McNulty de 3 secondes. Bruno Amirail est le premier Français. Il est 9e à 21 secondes du leader. Ce soir, la 3e étape de la Vuelta et la dernière au Portugal. Une étape de 191 km sur un terrain sinueux, mais avec une partie finale moins ardue, qui devrait donc s'achever sur un nouveau sprint massif.
Allez, les sports mécaniques maintenant, pas de Formule 1, mais un Grand Prix de MotoGP.
Les pilotes étaient en Autriche et c'est le double champion du monde en titre, Francesco Bagnaia qui s'est imposé. Il devance 2 Espagnols, Jorge Martin et Alex Espargaro. Les Français, eux, n'ont pas brillé. Joan Zarco, 21e. Fabio Quartararo termine, lui, 18e. Un week-end à vite oublié pour le champion du monde 2021.
Oui, clairement, un des pires week-ends de la saison. Clairement, on essaye d'améliorer, mais c'est de pire en pire, malheureusement. On n'arrive pas à trouver le chemin pour s'améliorer. J'ai essayé de pousser vraiment énormément dans les premiers tours, comme les autres le font, mais malheureusement, on se fait vraiment dépasser. Ensuite, des problèmes de pression, et voilà, on voit que le résultat est désastreux.
Fabio Quartararo, du coup, au classement général, Francesco Bagnaia reprend la tête et devance désormais Jorge Martin de 5 points. Fabio Quartararo est 14e, Johan Zarco 18e.
Et puis Léo, parlons golf avec les playoffs de la FedEx Cup.
La première des trois étapes a eu lieu ce week-end avec le St. Jude Championship. Victor Pérez, le Français, n'a pas réussi son pari. Il termine le week-end à la même place qu'au départ, la 70e et dernière position. Pour continuer dans la compétition, il devait rentrer dans le top 5. De son côté, Mathieu Pavon est lui 20e. Il sera donc au rendez-vous du deuxième tour des playoffs qui auront lieu la semaine prochaine. A noter que c'est l'Américain Scottie Scheffler qui est en tête.
Dans un instant, on va évoquer ce qui fait l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie, notamment à la fin de la saison de football. On en parle avec le président de la Ligue, Gilles Tavergeux, qui est l'invité de ce journal.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Spécial info jeu SMS sur RRB. Le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat. À dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie. Les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Pour parler du sport local et notamment de l'actualité du football, Michael Juneski avec notre invité, le président de la Fédération calédonienne, Gilles Tavergeux.
Gilles Tavergeux, bonjour.
Oui, bonjour et merci pour votre invitation.
Merci d'avoir accepté de venir dans nos studios. Lundi dernier, donc, la Fédération calédonienne de football qui annonçait l'arrêt des compétitions sur le territoire, les compétitions élites, notamment la Super League, la Coupe de Calédonie. Tout d'abord, on revient sur ce qui a motivé cette décision définitive.
Oui, alors concernant cet arrêt définitif, ça, il a été motivé par les événements que nous subissons actuellement. Et pour cela, la commission d'organisation, aussi bien du futsal que du foot à 11, s'est déplacée et a organisé plusieurs réunions avec les comités de province également et avec les clubs de Super League pour savoir quelle était la meilleure solution à adopter pour faire face à toutes nos compétitions qui étaient arrêtées depuis un moment. Et donc, il a été décidé, il a été proposé au Conseil fédéral par ses commissions d'arrêter les compétitions et de sursoir après à la décision de l'OFC pour les représentants en haut ligue et puis de la 3F pour la Coupe de Calédonie.
En principe.
Mais toutes les compétitions étaient arrêtées, aussi bien fédérales que provinciales.
Principalement les problèmes de calendrier, déjà durs à gérer en temps normal, donc d'autant plus quand il y a plusieurs mois de crise insurrectionnelle qui provoque l'arrêt des disciplines sportives.
Tout à fait, oui, puisque en plus, pour qu'on puisse aller jouer sur ces infrastructures, il faut aussi l'aval des différentes collectivités, qu'elles soient provinciales, municipales ou gouvernementales pour le stade de Magenta. Donc c'est difficile d'avoir toutes ces assurances. Et quelque part, il fallait vraiment se retrouver autour de la table avec les dirigeants et les responsables pour qu'on puisse prendre la meilleure des solutions face à ces problèmes qui nous sont posés avec cette situation actuelle.
Alors, une semaine après cette annonce, vous avez pu prendre la température avec les clubs, on le suppose déjà en amont. Quelles sont les conséquences immédiates, hein, évidemment, pour le ballon rond calédonien ?
Ah ben nous, les conséquences, elles sont très importantes, puisqu'il faut savoir déjà, avant que, je veux dire, on prenne cette décision, nous avions maintenu nos sélections. Je parle pour les U17, les U16 plutôt, et les U19. On avait maintenu de participer aux compétitions malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour les regroupements, les entraînements et tout. Mais tout avait été fait au niveau administratif et financier pour qu'on puisse se déplacer. Et je voudrais remercier les parents et les dirigeants des clubs qui nous ont permis d'avoir les joueurs à disposition pour qu'on puisse représenter le pays pour les U19 au Samoa et puis les U17, les U16 à Tahiti. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais faire, d'ailleurs remercier les parents, les dirigeants qui ont permis à la Calédonie d'y aller à ces compétitions FIFA, puisqu'il faut savoir que nous tenons la route, comme on dit, grâce au budget de la FIFA et aussi à l'apport de l'OFC financièrement. Donc toutes ces compétitions, on est tenu d'y assister, d'y participer, et je pense qu'on a montré le meilleur visage des Calédoniens lors de ces différentes compétitions.
Alors, on va y revenir hein, au cas des sélections calédoniennes, évidemment. Mais pour les clubs, en attendant, évidemment, cette fin prématurée des compétitions, ça entraîne quoi ?
La fin des compétitions, l'arrêt des compétitions a été aussi décidé avec les clubs. C'est les clubs qui n'ont plus à disposition les joueurs, hein, déjà, dans un premier temps. La deuxième chose, c'est que les installations, sportives ne sont pas ouvertes. Donc là aussi, c'est difficile de pouvoir entraîner des joueurs si on n'a pas les installations sportives. Et la troisième question qui nous a été posée, c'est financièrement, puisqu'il faut savoir que la Super League, que ce soit futsal ou foot à 11, elle coûte assez cher aux clubs et qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs ne pourront pas disposer des subventions qui leur ont été plus ou moins promises en début de championnat, puisque vous savez qu'il y a deux manières de toucher ces subventions, en début d'année et en milieu d'année. Et là, avec tout ce qui se passe, l'intérêt supérieur, il est ailleurs que dans le sport ou dans la culture. Donc c'est vrai qu'on est les parents pauvres et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est ces budgets-là qui sont amputés. Mais quelque part, là aussi, il faut savoir que nous, on n'est pas restés les deux pieds dans le même soulier. On a continué à travailler dessus. Et le département technique travaille actuellement avec le département de compétition sur un projet où on pourrait regrouper les clubs qui, un, volontairement voudraient venir jouer, et deux, on a déjà l'arbitrage qui, lui, est toujours en marche et qui fonctionne bien. Et on pourrait faire des tournois, fédéraux.
Ah, déjà une solution qui serait envisageable pour la fin de cette année, en tout cas même la moitié de l'année qui reste à suivre.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans ce cadre-là de compétition FIFA, on a la sélection A qui doit jouer sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et c'était un des objectifs de notre équipe lorsqu'on a été élu, de justement faire le maximum pour essayer d'avoir une qualification en Coupe du Monde 2026, puisque l'Océanie a une place entière. Et toujours cette demi-place avec un match de barrage. Donc, c'est un peu notre objectif avec la mise en place de notre stratégie excellence et sur la compétition aussi bien jeune que senior, pour qu'on puisse, monter d'un cran dans la zone Océanie, essayer de rivaliser avec les Néo-Zélandais, même si c'est très dur, déjà par rapport aux compétitions elles-mêmes, mais aussi au nombre de personnes qui jouent au foot chez eux. Et aujourd'hui, on est dans cette dynamique où on doit maintenir notre projet, c'est-à-dire de essayer de tout faire pour que notre sélection 1 soit la plus représentative. Et pour cela, on est aussi avec notre projet en métropole, avec tous nos joueurs qui sont expatriés.
Il y a encore une question sur la partie économique. Vous avez travaillé de longue date pour notamment attirer des sponsors, hein, les matchs de foot diffusés notamment sur Internet, sur différentes chaînes. Là, où en est-on après un arrêt prématuré des compétitions pour l'année prochaine ? Est-ce qu'ils vont toujours vous suivre ?
Alors, pour le moment, on n'a pas eu trop de retours là-dessus. On sait qu'il y en a un qui s'est désisté déjà. Par contre, concernant la diffusion de notre championnat de Super League, on a eu une première discussion avec Canal+, je peux me permettre de le dire, puisque c'est le seul qui, aujourd'hui, nous aide vraiment aussi bien au foot féminin que le foot masculin. Et ils sont partants, justement, pour que l'année prochaine, on redémarre. Et on verra les conditions, mais ils sont partants, puisqu'ils savent très bien l'impact du football sur l'ensemble du territoire.
Alors, vous avez évoqué le cas des sélections calédoniennes, justement. Il y avait un match amical encore samedi matin sur le centre technique de Païta, la sélection A face à la sélection des moins de 19 ans. Victoire de la sélection A sur le score de 6-2. Maintenant, comment ça va se passer pour les sélections, justement ? C'est ce temps de jeu qui va manquer une fois que les clubs ne peuvent plus participer aux compétitions ?
Effectivement, c'est ce qui est remarqué, c'est le temps de jeu de tous nos sélections et ce qui s'est produit. Je veux dire, c'est pour ça que je reviens sur les deux compétitions de jeunes de U16 et U19 où on n'a pas eu ces temps de jeu, mais que les garçons sont allés au bout d'eux-mêmes pour justement décrocher leur qualification et même c'est presque jamais vu pour ce qui s'est passé pour les U16. Deux victoires lors de ce tournoi et qui leur permet de décrocher la troisième place après face aux Tahitiens pour aller à cette Coupe du Monde qui aura lieu, je veux dire, au Qatar. Je veux dire, voilà, c'est aussi, ça démontre l'envie de nos jeunes, la motivation de nos jeunes pour justement se surpasser lors de compétitions officielles et qui, lorsque moi, à chaque fois, j'ai un mot à leur dire, je leur explique bien les retombées de la FIFA. Quoi. Je veux dire, c'est la FIFA qui nous permet aujourd'hui de pouvoir participer à ces compétitions. Et la moindre des choses, c'est de se donner à fond pour essayer de décrocher une qualification. Et pour en revenir aux seniors, oui, c'était un premier match. Je veux dire, ça a été mis en place par le département technique avec le sélectionneur Johan Sidaner et avec, je veux dire, tout l'ensemble du personnel de la fédération sur le centre technique à Païta. On a essayé de faire un maximum de choses pour que l'ensemble du pays aussi puisse voir ça sur notre chaîne. Je veux dire, ça a été fait d'une manière assez exhaustive, même si quelque part on peut nous reprocher certaines choses. Mais quelque part, on a essayé de montrer à l'ensemble du pays et de nos abonnés, je veux dire, puisqu'on a plus de 10 000 abonnés sur notre chaîne, pour qu'on puisse montrer que ben, le football est là et il vit bien. Et que quelque part, eh ben, on a cette échéance-là qui est la qualification Coupe du Monde. Il faut la préparer de la meilleure des façons et aujourd'hui ben, on a profité du retour des jeunes U19 avec l'ensemble des matchs qu'ils ont produits à l'extérieur et notamment au Samoa avec un coach qui tient la route et je veux dire cette envie de bien faire et je pense que les gens qui étaient présents avec moi samedi au CTE de Païta ont vu quand même que tous nos jeunes ben, ils veulent porter le maillot et puis essayer de porter les couleurs du pays au plus haut niveau.
En guise de conclusion, hein, très rapidement, voilà, on a parlé du haut niveau. Maintenant, pour la Fédération calédonienne de football, sur cette fin d'année, ça va être quoi les principaux chantiers pour tous les amoureux du ballon en général, notamment la jeunesse? C'est l'un de vos projets portés depuis votre élection.
Tout à fait. Alors, pour les jeunes, on a la prochaine sélection qui va se déplacer, c'est les U16 filles, les féminines, qui vont partir à Fidji là, au mois de septembre, début septembre, qui vont jouer un tournoi également. Et on a de grands espoirs en elles. Hein. Mais il faut savoir aussi qu'elles n'ont pas joué. On essaye, avec les regroupements, on a profité des 15 jours de vacances pour justement faire des regroupements, des petits matchs, pour justement les mettre dans les meilleures conditions. Et ben, le projet fédéral, ben, il suit son cours. Hein. Comme vous dites, les sélections, c'est la vitrine de notre football. Ben, si on peut, avec ces sélections, ben, montrer que la Calédonie aussi, il y a du sport, et puis il y a le football en particulier qui se porte bien, malgré tout ce qu'on subit. Mais voilà, moi, je suis toujours d'un caractère optimiste, et j'espère qu'on va aller de l'avant, et puis que le football, ben, c'est un lieu de rassemblement, de communion, et je veux dire, souvent, pendant 90 minutes, on oublie tout, et puis on est là plus focalisé sur la défense de la couleur de son maillot, ou de son île, ou de son district ou de sa province. Donc voilà, c'est une manière aussi, à travers le sport, ben, de se retrouver et puis d'échanger.
Merci Gilles Taverge, président de la Fédération calédonienne de football, d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci à vous.
Allez, on va terminer, Mickaël, avec un petit récap des résultats sportifs du week-end en Calédonie.
Oui, principalement du golf. Il y avait pas moins de 3 tournois sur ces 2 derniers jours. Une reprise progressive qui fait du bien aux différents clubs. Il y avait notamment le tournoi des Broussards à Deva, à Bouraille, ce samedi, tenue de cow-boy de rigueur. Tournoi également à Dimbéa. Et puis, ce dimanche, sur les greens de Tina, le trophée des pros GF Peinture Air Calin au tournoi des Broussards à Deva. Au classement brut, c'est l'équipe Émilie Rico, Flavia Manato, Corinne et Philippe Favier qui l'a emporté. Au classement net, c'est le quatuor Valérie et Jean-Louis Lechêne, Fabienne et Jean-Michel Maillard qui s'est imposé.
Merci, c'est la fin de ce magazine des sports, il est midi 20. C'est Thierry qui vous accompagne maintenant jusqu'à 13h pour la fin d'Infomag, 13h qui sera l'heure évidemment du rappel de l'actualité.